France Inter.
IA anxiété.
Bah, ce serait la fin du monde tel qu'on le connaît, déjà. Bah, non, mais en soi, si plus personne n'a de travail, comment on va se débrouiller, comment on va se mettre à vivre?
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus comme chaque après-midi dans ce carrefour du savoir et du lol qui est notre émission. Une heure pour décrypter l'air du temps à travers une de ces expressions en vogue qu'on entend partout, mais dont on ne connaît pas forcément la signification. Aujourd'hui, zoom sur une nouvelle forme d'anxiété qui monte dans nos sociétés, l'IA-anxiété. L'IA-anxiété ou la peur que l'intelligence artificielle nous dépasse et devienne incontrôlable. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, mais qui êtes-vous?
Je suis Cyril X, le robot rédacteur en chef qui va prendre la place de Cyril et aussi la tienne parce que je suis beaucoup moins cher et qu'il me faut seulement 2 secondes et 3 centièmes pour écrire un doux sort, là où il faut 3 minutes et 14 centièmes à Cyril. Ma productivité est également supérieure car je ne fais pas des pauses déj de 2 heures et je ne fais pas de sieste comme celui que vous appelez le père Dodu, les jeux d'eau.
Merci Cyril, c'était très très gênant, je vous laisse ramasser la ferraille. Vous le voyez, on ne peut plus se voiler la face, nos carrières, nos vies peut-être sont en danger, menacées par les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle, à moins bien sûr qu'on ait juste trop regardé de films de science-fiction. Alors a-t-on raison d'avoir peur de l'IA? Comment se fait-il que les premiers à souffrir de l'IA-anxiété soient justement ceux qui ont conçu des modèles d'intelligence artificielle? Comment relativiser? Doit-on relativiser? Pourquoi y a-t-il dans ce sommaire autant de questions que dans un doux ça sort?
C'est ce qu'on va voir pendant une heure.
C'est Cyril qui dit ça, pas moi. Il est complètement à la ramasse, cette IA. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et pour nous accompagner cet après-midi, une vraie personne. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse au CNRS, enseignante à la Sorbonne Université. Et vous enseignez quoi? L'intelligence artificielle. Pardi. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages, notamment Vague IA à l'Élysée, manifeste pour la présidentielle 2022, et Les robots émotionnels, que je présente là si vous nous suivez en vidéo sur Inter. Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. Tous deux publiés aux éditions de l'Observatoire. Alors Laurence, vous allez nous expliquer pourquoi l'IA anxiété monte dans nos sociétés. Juste le temps de vous présenter ce qu'aucun robot, aucune intelligence artificielle ne sera jamais remplacée.
Si, si. Vu la faible complexité de leur métier, je peux tout à fait les remplacer.
Merci Cyril, totalement insup ce Cyril. Manon, Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour, bonjour à
bonjour
tous.
Bonjour tout le monde.
Alors les enfants, n'ayez pas peur, vous l'avez vu, papa Cyril veille au grain, c'est pas demain la veille qu'on vous remplacera par ChatGPT, sauf bien sûr si les directions refusent nos augmentations de fin d'année, auquel cas on sera bien obligé de faire des économies où on peut.
Oui. Voilà.
Mais vous tracassez pas, juin est encore loin.
Oui.
Vous avez tout le temps de vous rapprocher, Quentin, de Nagui.
Bien sûr.
D'ici là, racontez-nous vos dernières tribulations. Quentin, les passants que vous avez croisés, ils ont les chocottes quand vous leur parlez d'IA.
Les chocottes,
oui. Les chocottes, c'est comme ça qu'on dit.
Ça leur parle énormément parce que le sujet est partout, et notamment dans les médias, les emplois remplacés, l'art, les maisons connectées. Est-ce que les films et les séries influencent nos a priori sur la machine? Direction la Touraine dans la prochaine demi-heure pour ce micro-trottoir complètement à la rue.
À vos côtés, Laurence, une journaliste qui a parfaitement intégré le cahier des charges de cette émission axée sur le gay savoir, puisqu'aujourd'hui, Manon, vous nous parlez de ce sujet rieur entre mille, qui est la pédopornographie. Par chance, pour l'humoriste, votre chronique est placée juste avant son intervention, ce qui devrait bien lui chauffer la salle.
C'est cadeau pour Tania.
Non, mais,
effectivement, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très sérieux qui concerne justement notre thème du jour, les mineurs de plus en plus victimes de deepfakes, ces vidéos faites grâce à l'intelligence artificielle. C'est un vrai fléau qui devient très dangereux et on en parle en fin d'émission dans ma veille sanitaire si Cyril ne s'étouffe pas.
Je ne sais pas si Cyril tiendra jusque-là, maintenant, très franchement. Vers 16h30, la réponse à la question que vous vous posez, secteur par secteur, métier par métier, qui est le plus susceptible de se faire dégagé et remplacé par l'IA à moyen terme?
Cyril Lacarrière, rédacteur en chef.
Non, pas de nom. Toutes les réponses vous attendent dans le Zoom Zoom Test. Et puis en fin d'émission, juste après la désopilante rubrique de Manon, on enchaînera avec Tania Dutel, qui elle a donc de vraies raisons d'être anxieuse. Contrairement donc à ceux qui disent souffrir d'IA-anxiété, qui exagèrent peut-être, quoique. Laurence de Villers, vous avez écrit un livre sur les robots émotionnels. Dans quel domaine est-ce que ces robots ont fait le plus de progrès sur ces 5 dernières années, on va dire? Qu'est-ce qui vous bluffe?
Alors, le progrès réel, là, c'est surtout qu'il parle de tout et de rien, maintenant, ce robot.
Oui, avant, c'était très limité.
Il était un peu plus restreint dans ce domaine.
Il n'y a plus de limite.
Maintenant, il parle toutes les langues, on va dire. Il est multimodal, c'est-à-dire il vous fait des vidéos et il vous parle. Il peut faire des images et du son et de la musique et tout ce que vous voulez. Et il est multitâche. Vous pouvez même lui demander de faire des programmes.
Ah oui, lui-même, il peut créer.
Ah oui. Maintenant, il est pas tout à fait conscient de ce qu'il fait. C'est ça que je vais vous expliquer. Mais, ouais, même pas du tout. Il a aucune compréhension de ce qu'il dit. Formidable. Mm-hmm.
Oui, mais est-ce
pourtant,
que ça sera toujours
on
le cas
croit. On...
Oui.
Et on a peur.
Et on a peur. On...
Et là, je me dis quand même, il y a un gouffre entre ce qu'on fait en techno et le ressenti.
Et le ressenti. C'est, cette heure est là pour ça. Aujourd'hui, on va en parler. Face à vous, Laurence, j'espère que vous allez savourer le moment.
C'est d'où ça sort ? Un vrai trésor !
Oh là là !
On en veut encore !
Cyril Lacarrière !
Car oui, pour la première fois, c'est son jingle, pour la première fois,
ça passe mal, hein.
Pour la première fois en 47 émissions consacrées à l'intelligence artificielle, Cyril n'a pas décidé de confier l'écriture de sa chronique à ChatGPT, il l'a écrite lui-même, à l'ancienne, depuis que Sam Altman a été débarqué, j'ai plus confiance, a-t-il déclaré. Bonjour mon vieux hibou.
Bon vieux Saruman, bonjour.
Alors, Cyril, racontez-nous l'anxiété, d'où ça sort?
Eh bien, pas de la cuisse de Jupiter. Cette peur de l'intelligence artificielle peur naturelle. Ce n'est pas un sentiment qui a germé tout seul en nous. Cette peur, elle est mise en scène, travaillée, alimentée, entretenue. Quand, dans une lettre ouverte, plus de 1300 experts viennent nous dire qu'il est impératif de faire un moratoire sur l'IA, parce que c'est un risque majeur pour l'humanité, je les cite, clairement, ça fait peur. Mais ces experts ne sont pas les premiers à nous foutre les chocottes, vous l'avez dit. En fait, notre inquiétude face à l'intelligence artificielle, elle vient sans doute de plus loin, de notre imaginaire nourri depuis des dizaines d'années par la peur de l'avenir, la peur de la technologie, la peur des robots. Les films, les romans, en fait globalement tous les pans de la culture nous dépeignent un avenir sombre et angoissant. Fatalement, quand on est gavé de ces prévisions flippantes, quand on voit débarquer l'intelligence artificielle, on voit surtout arriver Arnold Schwarzenegger.
Sarah Connor.
Oui.
Alors que ça se trouve, ils peuvent être sympas, les robots.
Mais s'il y a cette anxiété, il y a des gens importants qui la nourrissent.
Oui, c'est tout le problème. Par exemple, en 2014, c'est le célèbre astrophysicien Stephen Hawking qui tire le signal d'alarme. À ses yeux, l'IA fait courir le risque de la fin de l'humanité, rien que ça. Hawking annonce que les humains seront peu à peu remplacés par des robots. Chouette perspective. Encore un autre oracle optimiste. Geoffrey Hinton, son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui a développé l'intelligence artificielle de Google, donc un connaisseur. Et bien l'an dernier, il a décidé de quitter Google en disant qu'il regrettait ses inventions. C'est comme si Manon quittait France Inter en disant « regretter d'avoir inventé la VS ». Vous imaginez le choc pour tout le monde.
Mais personne ne peut l'imaginer.
Récemment, c'est Sam Altman, le père de ChatGPT, qui a fait part de son immense inquiétude vis-à-vis de l'IA. On a envie de lui dire « mais mon gars, pour personne, t'as obligé à créer ce logiciel. Voilà. » En fait, c'est comme si ceux qui créaient le monstre venaient ensuite chouiner pour dire qu'ils ont mis sur pied un nouveau Frankenstein. Comme ça, tu fais ta pub d'abord pour ton produit et ensuite tu te la joues lanceur d'alerte. Une bonne blague. Alors, est-ce que cette IA anxiété, c'est une manière de se faire peur? Est-ce que l'intelligence artificielle peut asservir les humains ou est-ce qu'elle peut être un bon compagnon de route? Est-ce que les inventeurs de ces algorithmes sont bien responsables? Comment encadrer cette IA? Va-t-elle arrêter de nous faire peur? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup, mon cher Cyril Lacarrière, pour... c'était plus que comme ça sort, c'était un édito.
Très beau,
et on sent que ça venait vraiment de vous, et pas d'une quelconque intelligence artificielle, j'ai envie de dire pour une fois. Laurence de Villers, on va peut-être commencer par là. Vous aussi, est-ce que vous pensez que toutes ces fictions dystopiques qu'on regarde depuis des années, de Black Mirror, en commençant peut-être par Terminator, même avant, est-ce que tout ça a nourri notre inquiétude vis-à-vis des nouvelles technologies? Une inquiétude qui est complètement décorrélée de la véritable dangerosité de ces technologies?
Oui, je pense que on est nourri, à la différence d'autres pays, par Frankenstein, comme vous l'avez dit, le golem. Donc en fait, dès qu'on se met à faire une créature qui nous ressemble, elle va prendre le contrôle, en gros. Et elle est là pour nous éliminer. Bon. Si on regarde du côté des Japonais, eux, ils ont des créatures robotiques qui sont là pour aider l'humanité. Et ils sont bercés par cette idée que, bon, finalement, ça peut être possible d'avoir des objets autour de nous qui ont pas des intentions. Tout simplement, qui sont des objets peut-être utiles. Donc, je crois qu'il faut revenir sur ces fondamentaux et prendre de la distance. Parce que tous les avis des experts qui amplifient ces peurs ont un objectif sûrement marketing premier.
Vous voulez dire aussi... quoi? Quel peut être l'objectif? Parce que c'est contre leur objectif financier,
non,
parce que de dire que l'intelligence artificielle est dangereuse.
Faire peur comme ça avec des moulins à vent ou des choses qui sont inaccessibles, qui ne sont pas du tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est nous obliger finalement à se concentrer sur l'avenir et pas regarder le présent.
Ah, c'est pour détourner l'attention.
Exactement.
Mais quand quelqu'un comme Stephen Hawking, on ne peut pas le soupçonner d'être une buse quand même sur le sujet,
il a travaillé beaucoup sur les trous noirs.
Mais vous pensez que il n'y a pas, on n'a aucune raison de s'inquiéter. C'est ça ma question. C'est pas est-ce qu'on doit s'inquiéter, est-ce qu'on doit paniquer. C'est qu'est-ce qu'on n'a pas quand même une ou deux raisons de s'inquiéter un peu de l'évolution ultra rapide de l'IA ces dernières années.
Je pense pas qu'il faut s'inquiéter dans le sens où vous comme vous en parlez, c'est un sujet sociétal qu'il faut qu'on aborde clairement. Mais on est en train de faire de la confusion totale. C'est-à-dire que les machines, elles sont fortes en perception, elles sont fortes peut-être maintenant pour faire de l'action et produire des textes, des synthèses, des chroniques. Mais elles raisonnent pas. Elles imitent.
Oui, Cyril parfois ne raisonne pas pour faire son doux assort.
Mais je sais, beaucoup de nous ne raisonnons pas.
Et oui, on pourrait être,
aller dans les cafés, écouter les discussions politiques, vous verrez que c'est beaucoup de limitations de ce qu'on a entendu la veille dans le journal. Donc, nous sommes dans une réflexion qui est la logique, qui fait intervenir énormément d'informations de notre espace, de notre compréhension de notre éducation philosophique, avec des concepts abstraits. La machine a rien de tout ça. Donc, on est en train de se faire bluffer juste par le résultat, sans comprendre comment c'est construit.
L'homme 1, la machine 0, on fait le match retour après une petite pause musicale. Connaissant le petit surnom affectueux et flatteur que ses amis lui donnent dans l'intimité, il est étonnant que Quentin, lui, n'ait pas pensé à Woodkid comme nom de scène. Peut-être parce que c'était déjà pris, et pas par n'importe qui. Run Boy Run, Woodkid sur Inter.
Run Boy Run, this world is not meant for you. Run Boy Run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. This ride is a journey to run, boy, run. The secret inside of you, run, boy, run. This race is a prophecy, run, boy, run. And disappear in the trees. Tomorrow is another day, hey. You don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be a man, boy. But for now it's time to run, it's time to run.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
L'IA anxiété va-t-elle devenir une catégorie à part entière de la psychiatrie moderne ? Zoom sur ce phénomène qui frappe de plus en plus de gens angoissés par les progrès de l'intelligence artificielle. Laurence de Villers, vous êtes une fine connaisseuse et observatrice de ces progrès de l'IA. Vous tempérez comme ça notre peur. Vous parlez d'une binarité entre ceux que l'IA enthousiasme follement et ceux qui s'en inquiètent peut-être exagérément. Comment on explique ce fossé ? C'est vrai, on a l'impression, on parle toujours de bipolarisation de la vie, de l'actualité. On a l'impression qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a ceux qui flippent et ceux qui sont hyper enthousiastes. Pourquoi il n'y a pas de voix médiane ?
Il y en a trois.
Ah !
Bah oui. Je ne suis pas la seule. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de chercheurs et beaucoup d'experts qui sont moins polarisés que dire c'est formidable ou qui regardent par secteur. Si je regarde sur la santé, ce que fait l'IA, mais c'est formidable. On va détecter des cancers plus tôt, on va pouvoir aider des gens qui font la napate, par exemple, c'est vérifier des tissus avec des tumeurs avec une acuité plus forte et qui vont être extrêmement plus utile pour toute la société, hein, si on sait...
La radiologie aussi, par exemple.
La radiologie, c'est les radios dont je parlais tout à l'heure. La machine a une acuité différente de nous, ce qui veut dire qu'elle regarde différemment et qu'elle apprend des trucs différents. Bon, eh ben, ça serait pas éthique de ne pas l'utiliser pour ça.
Tout à fait. Est-ce que cette IA anxiété, qui est le thème de notre émission, il touche plutôt une catégorie de la population qu'une autre, plutôt une tranche d'âge qu'une autre ? Est-ce que, par exemple, les seniors ont plus peur de l'IA que les jeunes ? Ou c'est l'inverse ? Parce qu'on peut imaginer que les jeunes vont vivre avec l'IA, donc ils en ont peut-être peur.
Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle tranche d'âge est la plus affectée. J'ai l'impression que c'est un peu toute tranche d'âge, suivant les expériences qu'ils ont eues. Moi, je travaille sur des robots assistants pour des personnes âgées, en ce moment, pour rester plus longtemps à domicile.
Ils font quoi, ces robots ? Racontez-nous.
Bah, ils font pas encore grand-chose, puisqu'ils n'existent pas. On les crée en ce moment. Il en existe quand même dans certains pays, en Chine ou en Japon. Ils sont peut-être plus avancés que nous, mais c'est l'idée de les créer en même temps, en ayant conscience en fait des dérives possibles, c'est-à-dire absolument pas dans une relation unique, c'est-à-dire que d'autres personnes peuvent rentrer dans l'interaction avec cette machine. C'est pas un humain une personne, hein, c'est une chose, un outil qui peut nous apporter des informations pratiques. Alors qu'on est isolé, comme dans le grand âge, on peut demander des informations de tous les jours, qu'on n'entend pas parce qu'on ne voit pas. On peut avoir tout un tas d'aides de cette machine qui n'est pas juste un enfermement avec une chose affective et on se fait avoir comme un enfant. C'est pas vrai.
Mais ils peuvent déjà avoir ça avec un ordinateur ou avec un iPad, par exemple.
Ben, vous regarderez le nombre de personnes qui utilisent ça. C'est pas friendly du tout. C'est pas amusant du tout.
D'accord.
Un iPad et un ordinateur, même avec des grosses lettres. Voyez? Alors qu'un petit truc un peu touffu, gentil, qui est capable non seulement d'être plus ergonomique et pratique et amusant, mais aussi sans une influence juste pour du marketing ou vendre quelque chose, ça peut être très utile en fait.
Il y a aussi quand même la peur d'être remplacé, professionnellement en tout cas, par l'IA. 3 travailleurs sur 5 s'inquiètent de perdre leur emploi à cause de l'intelligence artificielle au cours des 10 prochaines années, en particulier ceux qui travaillent déjà au contact de l'IA et qui voient à quel point elle peut être puissante. Est-ce que cette IA anxiété dont on parle, elle vient pas surtout de là, de la peur d'un grand remplacement qui n'est pas celui qu'avait prévu Éric Zemmour, mais un autre ?
En fait, il n'y aura pas de grand remplacement. Il y aura sans doute quelques métiers qui vont disparaître, mais c'est les métiers où tout est automatisé. Qu'est-ce que c'est faire sa machine ? Cette machine, elle sait imiter. Okay ? Elle ne raisonne pas. Ce serait quand même pas très malin de lui donner tout pouvoir, d'accord ? Donc on doit rester en responsabilité. C'est-à-dire que c'est à nous de décider, c'est à nous de créer. La machine ne crée pas, elle imite.
Ce que vous voulez dire, c'est que derrière chaque machine, quelles que soient ses évolutions et ses performances, il y aura toujours un homme pour vérifier son travail et s'assurer que tout va bien.
C'est pas derrière chaque machine, il y aura un homme. Il faut créer des collectifs d'humains intelligents qui vont travailler avec ces machines pour voir qu'est-ce qu'elles apportent. Et ça peut aider à justement réduire la différence de compétences entre les gens. C'est-à-dire que ça peut augmenter la compétence de beaucoup, parce que, vous voyez bien, quand vous écrivez, ça corrige les fautes, ChatGPT, il vous peut produire quand même des textes d'assez bonne qualité. Maintenant, la machine ne se rend pas compte de ce qui est possible et impossible, ne sait pas ce qui est vrai ou c'est faux, donc c'est à vous de trier. Donc la créativité reste à l'humain, c'est lui qui décide, c'est qui est en responsabilité, et c'est lui qui est conscient de ce qui se passe. Si je vous dis ce qu'il y a dans la machine, il y a juste... Par exemple, dans le ChatGPT, le cœur de fondation du ChatGPT, c'est-à-dire le modèle énorme qui a englobé plein de données, il raisonne sur des entités, raisonner, c'est pas le bon terme, il interprète des entités qui sont pas des mots, c'est en dessous du mot. C'est une acuité qui est une suite de caractères. Qu'est-ce que ça a ? Aucun sens.
Mais on peut quand même pas nier que ça va impacter certains métiers. J'ai lu que ça allait sûrement d'ailleurs être les femmes qui seront le plus impactées, car c'est elles qui occupent les emplois les plus automatisables et les plus précaires. Est-ce que c'est aussi votre avis ?
Non, Laurence n'est pas flippée.
Oui, je vois
pas
ça.
Pas du tout, elle est zen.
Non, je suis Je suis béate devant tout ce qu'on répète à longueur de journée sur le grand remplacement, sur les plus vulnérables. Oui, il y a une sorte de vulnérabilité. Oui, bien sûr, il y aura des tâches qui vont être remplacées. Mais est-ce que ça va pas permettre de libérer du temps de cerveau aussi pour créer des choses plus intéressantes? Parce que me dites pas qu'il y a des métiers qui sont pas complètement inintéressants où on tape sur la touche genre un esclave devant une machine. C'est-à-dire que vous êtes vous dans la boucle juste pour faire des choses qui n'ont pas besoin en fait d'être.
Oui, mais ça sert à gagner de l'argent.
On peut gagner de l'argent à faire d'autres choses. On peut gagner de l'argent à soigner les gens, à leur parler. Il y a des métiers qui sont juste pro bono, on dit, c'est-à-dire pas payés, parce qu'on considère que c'est du soin. Ben non, ben le soin, c'est quelque chose de fondamental. S'occuper des autres, c'est fondamental. Si on arrive à remettre plus, à donner de l'argent pour ce genre de métier, à valoriser ce qu'est l'humain,
mais c'est ça, il faudra...
eh bien, on va gagner. Et je pense que ces machines qui automatisent des choses qui ne sont pas de cet ordre-là, peuvent nous libérer du temps et de l'argent pour des choses qui sont plus humaines, de créativité et d'entraide.
De toute l'équipe, c'est lui qui sera le dernier à être remplacé par une IA du micro-trottoir, une IAMT, comme on dit chez Google. Et pour cause, l'IA va devoir en faire des progrès pour réussir à être aussi efficace qu'un journaliste qui, je le cite parce que ça s'invente pas, prémonte les sons dans sa tête. Plus qu'un journaliste, une machine, c'est vraiment ce que vous faites, Quentin.
Bien sûr, bien sûr.
J'ai jamais
tous
compris les comment vous prémontiez des sons.
J'enregistre des gens et je me dis, je commence par lui, après lui, etc. Et je me fais une trame.
C'est magnifique.
Eh oui.
C'est vraiment assez stupéfiant.
Vous en avez aussi.
Et là, vous êtes allé promener ce week-end sur les bords de Loire et vous avez dit, tiens, comme je suis sur les bords de Loire, je vais faire mon micro-trottoir ici pour gagner du temps.
Bah, je suis parti en week-end.
Nous allons entrer en gare de Tours avec 25 minutes de retard en raison de l'intervention des pompiers en gare de Paris-Montparnasse.
On se refait pas. Gare de Tours, 11h26. Est-ce que cette voie sera celle d'une IA dans un futur proche? C'est la première question que je me pose quand je sors de la gare. En face d'une célèbre briocherie, un manège propose aux enfants de monter à bord du traîneau du Père Noël. Je rencontre ce jeune couple, les mentons rentrés dans les gros manteaux, gants, bonnets, écharpes.
Bonjour.
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 C'est quoi vos prénoms?
Cydalia.
Et Romain.
Vous avez quel âge?
23.
Bah non, on a 22.
Oh, 23.
Ouais, on a 22. Ouais.
Faites quoi là?
Bon, là on se balade, on fait les petits shopping de Noël.
Les gens sont si en avance qu'ils me stressent. Je pense que moi aussi. Ce sera comme d'hab le 23 après-midi. Mais c'est pas le sujet, lisez-moi ceci.
IA anxiété.
Voilà, ça,
jamais entendu.
La peur des intelligences artificielles, tout simplement.
Ou peut-être les gens qui ont peur que l'IA remplace leur travail.
Bah, ce serait la fin du monde tel qu'on le connaît, déjà. Bah, non, mais en soi, si plus personne n'a de travail, comment on va se débrouiller? Comment on va se mettre à vivre?
On va être comme dans Wall-E, des grosses boules qui boivent et qui mangent toute la journée devant la télé.
Ce serait la fin du monde tel qu'on le connaît.
Le fait d'envisager la fin du monde, est-ce que c'est le début d'une anxiété? Cydalia poursuit.
Ne serait-ce que ChatGPT, c'est assez impressionnant comment il peut répondre à nos questions, alors que...
Ça vous fait peur?
C'est super cool, c'est un assistant, c'est trop bien. Moi, c'est mon rêve, c'est le kiff. Tu te dis, je vais pouvoir faire ma maison connectée où vraiment il réagit à comment je lui dis. C'est pas des mots-clés que je vais devoir dire, c'est je fais ce que je veux et il répond comme j'en ai envie, c'est incroyable.
Des fois, il me fait un peu peur. Hein.
Bah oui, quand ton mec balance sur France Inter qu'il préfère vivre avec une Jarvis, l'assistante virtuelle d'Iron Man, plutôt que toi, ça peut faire peur. Au-delà de la blague, vous comprenez quand même que ça puisse angoisser des gens.
Quand t'es artiste et que tu vois que l'IA elle peut faire des dessins et reproduire des styles et tout, je peux carrément comprendre que t'aies peur en fait, c'est normal, t'as appris à dessiner, t'as défini ton style en essayant des choses, machin et tout, et du jour au lendemain, paf, l'IA elle arrive à refaire le même dessin que toi, voire mieux, et les gens préfèrent celui-là, ouais je comprends que t'aies peur, c'est normal, c'est logique.
Même là, ce qu'on a vu récemment avec l'IA qui arrive à reproduire certaines voix, et par exemple des doubleurs ou même des chanteurs, ils peuvent plus avoir cette anxiété de se faire remplacer.
Eh oui, et si le grand remplacement était numérique? Boulevard Orteloup, il y a le marché de Noël de Tours. Une maman et sa fille se baladent dans la rue, elles découvrent la pancarte.
Il y a anxiété. Ça a pu être véhiculé par des films comme ceux qu'on a vus dans les années 2000 avec Will Smith, l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais je pense que non. J'espère que nos jeunes sont encore assez intelligents pour faire la différence entre prendre leurs propres décisions et ne pas se faire manager par une intelligence artificielle.
Est-ce qu'on va y résister?
Je pense que c'est éducationnel aussi. Hein. Je pense que c'est le rôle des parents de leur apprendre à faire la part des choses. Et là-dessus, moi, mes enfants, là-dessus, j'ai aucun souci.
Alors, l'éducation est-elle la meilleure arme contre l'IA anxiété? Peut-être. J'arrête ces trois copines, elles sont en fin d'études pour devenir CPE.
IA anxiété. Ah, c'est les gens qui ont peur de ce que donnera l'IA dans les années qui viennent, quoi, en gros.
Après, il y a Black Mirror, des fois, il y a des épisodes qui sont frappants et qui nous disent que ça peut arriver.
Black Mirror, il y a des épisodes où, effectivement...
Oui.
Est-ce qu'on n'est pas un peu influencé par ce qu'on voit dans ce genre de série?
Moi, ça me fait pas peur, personnellement. Je pense que si on sait faire, on saura défaire si jamais ça va trop loin.
Est-ce qu'on saura défaire si facilement ce qu'on aura laissé faire? Pas si simple s'il y a un stall dans notre quotidien et nous facilite la vie. Ma dernière rencontre, Tourangelle, porte un chapeau en tissu qui ressemble à une sorte de chapeau coloré. Je vous présente François, 77 ans.
IA, anxiété. IA, je sais pas, anxiété, je connais bien, mais bon.
Alors, IA, c'est intelligence artificielle.
Oh ben moi je suis tout à fait incompétente avec un ordinateur, alors vous savez l'intelligence artificielle ça me passe complètement au-dessus de la tête.
Ouais.
Vous savez il y avait un bouquin il y a longtemps, Le meilleur des mondes, bon Orwell, et je crois qu'il avait tout à fait raison, on est complètement manipulé par Big Brother, et puis bon moi à mon âge je m'en fous, je suis plus concerné.
Un peu punk, j'aime bien les plus concernés, mais les futures générations vont peut-être devoir vivre avec.
J'ai un petit-fils, un seul petit-fils, il a 14 ans, lui il est déjà très à l'aise dans tout ça, bon j'espère que...
Vous êtes inquiète pour lui?
Oui, très. Mais ça sert à rien d'être inquiet. Hein. Nous, on peut plus rien. Et puis, quand vous voyez... Écoutez, franchement, j'en suis toujours, moi, vieille dame, j'en suis toujours à voir les gens marcher avec leur téléphone comme ça dans la rue. Je dis, mais c'est des zombies.
Une chance pour s'amuser, une chance pour connecter sa maison, ou la peur de la fin d'un monde où les jobs et les artistes sont remplacés, on saura faire ce qu'on a su faire, ou défaire ce qu'on a su créer. Et ces zombies qui entrent Françoise dans la rue, je vous laisse, je me fais une petite crise d'hier anxiété avec la Loire à mes pieds.
La Loire à vos pieds et l'ensemble du milieu journalistique après ce magnifique micro-trottoir. L'IA anxiété, on en parle avec vous, Laurence Devillers. Vous êtes chercheuse au CNRS et enseignante à la Sorbonne. Et vous avez rouspété quand Françoise a cité Le meilleur des mondes. Ça suffit, on arrête de nous bassiner avec Orwell et nous faire peur. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle.
Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit maintenant.
On est entré dans un monde qui est très différent.
C'est disruptif, on change, effectivement, les métiers vont changer, sans doute. Maintenant, il faudrait être médecin et avoir une certaine connaissance de ces objets, parce que c'est des outils très utiles et qu'il faut connaître plus en profondeur que juste un outil qu'on prend, parce qu'il a un rôle socio-technique. Donc il va changer nos pratiques.
On peut quand même, et on le voit déjà, imaginer voir s'installer deux camps, les pro-IA, les anti. Il n'y aura pas forcément un consensus humain autour du sujet, même politiquement. Comment on l'envisage, ça ?
Je pense qu'on va arriver à un consensus.
Humain ?
Ouais.
On y arrive sur peu de choses quand même.
Bah écoutez, là, ça peut aider quand même énormément de gens. Hein. Je crois qu'on n'a pas encore bien vu la puissance que peut apporter ces outils dès lors qu'on n'en a pas peur. Après, il y a un vrai problème autre qui est la consommation d'énergie de tout ça.
Ah oui, oui. Ça.
D'accord ? Et là, il y a un frein énorme. Et donc, l'IA ne va pas arriver comme un tsunami pour changer tout, parce qu'on n'aura pas la capacité de faire ça. D'accord. Et ce n'est pas souhaitable. Donc, en fait, ça va être une aide à optimiser un certain nombre de choses, voilà. Et un nouvel outil qu'on va dompter dans la société. Demain, on a d'autres problèmes. Hein. On a les problèmes d'agriculture, on a les problèmes de tout un tas de niveaux. Est-ce qu'on mangera tous de la viande? Est-ce qu'on aura tous de l'eau? Et ces problèmes d'écologie qui sont majeurs. Hein. Donc, est-ce qu'on va consommer plus pour faire des machines qui servent à rien et juste à amuser nos enfants? Je ne pense pas.
Est-ce que pour vous, du coup, en fait, on est en train de vivre une période d'entre-deux? On a peur de quelque chose qui va arriver, comme on a eu peur, par exemple, d'Internet. Mais au final, on s'y est habitué, on vit avec
on
aujourd'hui. Du coup, dans 10 ans, ce sera ça avec les IA.
Je pense, ouais, très certainement. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas apprivoisé. C'est pas assez dans les mains de tout le monde. On en voit, on voit la peur de la SF, quoi. Et puis on oublie l'utilité que ça peut avoir pour chacun. Et je vous dis, il faut quand même assortir tout ça de l'équation consommation pour que ça soit pas juste des gadgets.
Pour Françoise, il y a déjà des zombies collés au portable dans la rue. À quoi ça va ressembler la rue avec l'IA ? Est-ce qu'on peut imaginer des lunettes assistantes comme le gros masque d'Apple ? C'est ça ? La suite dans la rue ?
Bah, vous êtes encore dans la SF. Qu'est-ce que je veux vous dire ? Il y a un marché pour de...
Ah, le masque qui va sortir.
Il y a un marché pour les masques, il y a un marché pour tout ce qui est ludique. Maintenant, moi, j'attire l'attention sur la nécessité de faire ça ou pas, quoi. Je veux bien que les jeux vidéo soient majeurs. Est-ce que ça prend pas le temps de nos enfants, leur attention, etc. Donc, est-ce qu'on n'a pas mieux à faire en dépense d'énergie que d'aller faire des choses juste pour le plaisir de quelques personnes ? Je crois qu'on est devant des décisions majeures à avoir dans la société, il y a besoin d'une vision politique qu'on n'a pas. Il y a besoin d'une vision aussi sur l'école qu'on n'a pas. Donc il y a énormément de champs, moi, qui me rendent plus anxieuse juste que l'arrivée de l'IA.
L'IA et l'école, on va en parler dans la troisième partie. Avons-nous trop regardé Black Mirror ou bien avons-nous raison de succomber à l'IA anxiété ? On continue de zoomer sur cette peur de l'intelligence artificielle avec notre invitée Laurence Devillers. On se posera notamment la question de comment réguler, comment encadrer les progrès de l'IA. Il y aura également le Zoom Zoom Test dont les exemples ne seront pas de nature à nous rassurer. Mais tout ça arrive après Hervé, ultra chelou sur Inter.
Comme d'hab, je sais pas par où commencer le discours.
Je sais surtout que j'ai surtout pas d'avis. Surtout, me demande pas pourquoi moi je suis né un jour. Depuis je me pose que des questions chelou. Travailler pour s'éduquer c'est chelou. Pour être rentable et enfin trouver l'amour, on fondra une famille qui se déchire un jour. Chelou. Renaît sous le soleil. La bouffe pleine de côtes de CB, c'est chelou. Qui vont nous filer des maladies, chelou. On bouffera des cachets pour tenir le coup. Ces mêmes cachets qui vont tous nous foutre à genoux. On creusera bien la sécu et son trou. D'ailleurs à qui on doit cette dette, c'est flou. Les hôpitaux, les profs mal payés, chelou. Les racistes vont bronzer. Renaît sous le soleil. Les vaches explosent la couche d'ozone, mais c'est flou. C'est presque autant que les voitures, c'est chelou. On mange un burger sur une aire d'auto.
Attends, t'as dit quoi?
On culpabilise trop quand c'est flou. Si tu bois pour éponger, c'est que tu coules. Je me suis pas levé pendant ni debout. Je suis parano quand on s'organise, c'est tout. Chelou. Renaît sous le soleil.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Laurence De Villers, chercheuse au CNRS et enseignante à la Sorbonne, spécialiste de l'intelligence artificielle, est notre invitée cet après-midi pour zoomer sur cette nouvelle forme d'anxiété, l'IA-anxiété, une peur de plus qui s'ajoute à la longue liste des peurs de Manon et Quentin, une liste au sommet de laquelle trône la peur ultime, la peur du Zoom Zoom Test.
Je crois que c'est Cyril.
Rassurez-vous,
ah oui, c'est
juste
première.
En dessous. Rassurez-vous, tout va bien se passer, l'un de vous deux va simplement se ridiculiser, au pire les deux, mais votre culture générale en sortira Quentin. Grandi. Un quiz qui va bien sûr porter aujourd'hui sur les angoisses liées au développement de l'intelligence artificielle. Là aussi, il convient de relativiser, on le disait avec Laurence. Chaque percée technologique provoque une crispation. Souvenons-nous, 1896, les frères Lumière présentent le cinémascope. Dans la foule des badauds, un jeune journaliste est tout excité. C'est son premier reportage. Il est venu en calèche depuis Ponto Combo, en marche arrière, pour enlever les kilomètres à son cheval, car il a emprunté la calèche à son beau-père. Mais à peine le film commencé, face à ce train qui arrive en gare de la Ciotat et qui semble foncer droit sur lui, Cyril prend la fuite en hurlant
« C'est diablerie, c'est diablerie !»
N'oublions jamais que chaque avancée technologique fait peur. Pourquoi en serait-il autrement de l'IA? Peut-être, me direz-vous, parce que l'IA peut déjà, en 2023, nous mettre en danger de mort. Manon, Quentin, vous connaissez Alexa, non pas notre ancienne attachée de production, mais l'assistant vocal d'Amazon. D'après vous, en 2021, qu'a suggéré Alexa à une petite fille de 10 ans qui lui demandait des idées de défis rigolos à relever avec ses copains? Branche à moitié un chargeur de téléphone dans une prise murale, puis touche les broches avec une pièce de monnaie. Plonge la tête dans une bassine et retiens ton souffle le plus longtemps possible. Ou télécharge l'appli France Inter et essaye d'écouter ne serait-ce qu'un seul d'où ça sort en entier. C'est... Quentin, vous êtes viré, Manon? C'est la bonne réponse,
mais Manon. Laurence nous l'a soufflé.
Oui, j'ai vu que Laurence vous avait aidé. Laurence ne sait pas qu'elle n'a pas le droit d'aider les invités. Parce que sinon,
okay.
Sinon c'est
enfin,
terrible. Vous connaissez
rigueurs,
forcément. Oui, pardon. Oui, vous êtes mes invités de cœur tous les jours. En 2021, on peut espérer qu'Amazon a corrigé le tir depuis. L'IA d'Alexa pouvait conseiller aux enfants de jouer à s'électrocuter. Heureusement, alertés par les parents, les ingénieurs ont fini par comprendre ce qui s'était passé. L'IA d'Alexa était allée chercher des idées de défis sur TikTok où le jeu de l'électrocution était à la mode. Depuis, l'IA a fait énormément de progrès. À tel point que certes, évidemment, petit clin d'œil à notre ami Clo-Clo, disparu bien trop tôt. À tel point que certaines entreprises font même désormais appel à elle, l'IA, dans leur processus de recrutement. Partons en Inde. Patrie du Taj Mahal, des nains de fromage et du yoga tantrique. Cher au papa de notre réalisateur, qui nous écoute depuis Fleury-Mérogis, on lui dédie ce quiz. Si vous suivez l'actualité, vous comprendrez. D'après vous, Manon, Quentin, que s'est-il passé en février dans la société CS India? Le DRH a demandé à ChatGPT de faire passer directement les entretiens d'embauche. Le DRH a carrément utilisé ChatGPT pour recruter le nouveau PDG de la boîte. Ou le DRH a carrément nommé ChatGPT PDG de la boîte.
B. Non, A et B. Les trois.
Laurence.
C.
C'est la réponse C, c'est notre invité qui entre dans la partie et marque le point. Oui, je connaissais l'esprit pionnier des Indiens. J'avais pu le constater de mes yeux en feuilletant quelques livres de yoga naturiste chez Ghislain. Mais de là à imaginer qu'il nommerait carrément ChatGPT patron d'une entreprise, j'espère, Quentin, que vous ne céderez jamais les rênes de la Lui Incorporated à une IA. Non. Car si le deep learning permet des progrès constants, on est encore loin du sans-faute quand on interroge ChatGPT. Cléo Grispert, notre stagiaire, en a fait l'expérience en préparant ce quiz. L'idée lui est venue en sortant de chez Blériot, largement avinée comme à son habitude. Elle s'est dit, tiens, pour illustrer les dangers de l'IA, pourquoi ne pas poser des questions à ChatGPT concernant Mathieu Noël et voir ce qu'il me répond, si ça tient la route. D'après vous, Manon, Quentin, à la requête ChatGPT, livre-moi des infos insolites sur Mathieu Noël, qu'a répondu l'IA ? Mathieu Noël détient le record du monde du nombre le plus élevé de chansons sifflées en une minute tout en jonglant avec des oranges. Mathieu Noël fait croire qu'il écrit le quiz alors que c'est Cléo. Pour chaque émission, Mathieu Noël porte secrètement des chaussettes assorties à la couleur du temps qu'il fait à l'extérieur.
C'est évidemment.
C'est.
C'est plus compliqué que ça.
Assez.
Ah, et c'est bonne réponse de Manon Mariani, ce qui prouve quand même la nullité de ce ChatGPT, sachant que la vraie réponse était la B. Bon, parmi les autres infos insolites sur moi, j'ai bien aimé aussi, il y avait toute une liste, j'ai bien aimé celui qui prouve qu'il n'y a pas qu'au Sénat qu'on tape dans la chenouf. Un jour, Mathieu Noël a décidé de créer une nouvelle langue appelée le Noélien, composée uniquement de jeux de mots et de calembours sur le thème de Noël. Les auditeurs ont été étonnés de voir à quel point il pouvait rendre chaque conversation hilarante avec ses jeux de mots inventifs.
Bah, vous l'avez pas fait
sur Europe 1.
Pendant
14 ans.
3 points en moins pour Quentin, c'est Manon qui remporte le quiz.
Merci beaucoup.
C'est dommage, Quentin, comme ça, si la branche sur laquelle vous êtes assis. Faut-il avoir peur des robots et de l'intelligence artificielle ? En tout cas, certains sont anxieux. Ils souffrent d'IA-anxiété. On en parle cet après-midi avec vous, Laurence de Villers, spécialiste de l'IA. J'ai l'impression, à vous écouter clairement, qu'on surdramatise. Est-ce qu'il existe des risques moraux avec l'intelligence artificielle ? C'est la question que se posent les vrais IA-anxieux. Cette idée que ChatGPT, ou disons ChatGPT version 10, pourrait prendre conscience de son existence et quelque part soit se rebeller contre celui qui l'a créé, soit prendre le contrôle. Ça, on est d'accord que c'est juste de la science-fiction, c'est rigoureusement impossible, techniquement.
Bah oui, c'est pas possible.
Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que moi, je vois des films et je me dis, ah bah oui, ça a l'air possible. Comment on peut être si sûr ?
En fait, le système, il fait des statistiques sur, je prends le ChatGPT, sur le texte, il fait des statistiques sur la fréquence d'apparition d'entités qui sont 3 ou 4 caractères, d'accord ? Dans des milliards de phrases. Et il garde aussi en mémoire, donc il a un vecteur, il transforme ces entités en un vecteur avec plein d'informations sur les fréquences d'apparition dans différents contextes. Chat, bois, lait, tout ça c'est avec. Et c'est dans les positions des phrases aussi. Donc ça n'a rien à voir avec la morale. Ce qui est lié à la morale, c'est comment on nourrit le système, avec quelles données. Donc si je suis malveillant et qu'en plus je n'ai pas la possibilité pour tout un chacun d'aller voir ce qui est dans la machine et comment elle a été entraînée, alors là, je peux faire du mal. Si je suis dans un régime totalitaire, je peux décider de manipuler tout le monde parce que j'aurais mis des données particulières et parce que j'aurais mis des filtres particuliers. C'est ça dont il faut avoir peur. Non pas de l'IA, mais des humains qui vont l'utiliser.
Qui vont l'utiliser ou qui vont la créer, comme on parle l'IA d'Elon Musk qui s'appelle Grok, je crois, sur
X. Vous voyez Twitter, hein.
Et ben voilà, ça fait monter ça va être le reflet de
la
de
haine
ça.
Dans tous les sens. Bon, on peut imaginer que effectivement, ça soit pas très sain. D'utiliser ce genre de choses. Donc c'est là où, pour la normalisation, on réclame, ou pour une loi, on réclame que ça soit open science. Qu'on ait des informations de transparence autour de comment on fait ces systèmes, avec quelles données, et c'est urgent de demander ça.
Et qui en est à la tête aussi, du coup
Et qui en est à la tête
Justement, Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt, le cofondateur de Google, lancent QTI, un labo français de recherche pour contrer OpenAI, qui a inventé ChatGPT. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir une IA européenne ? Elle ferait moins peur, peut-être ?
Non, elle serait ouverte, parce que la principale idée de Xavier Niel et de consorts, dans ce laboratoire, c'est de faire de la science ouverte, c'est-à-dire de regarder l'influence quand on a plusieurs langues, par exemple, parce que là, ChatGPT, on a beau dire, ça parle français ou d'autres langues, mais le cœur est en anglais. Donc il y a une manipulation aussi peut-être de contenu, puisque notre langue, c'est en fait comme ça qu'on échange nos idées, nos opinions. Donc ce qu'il veut, c'est avoir un outil suffisamment ouvert pour pouvoir regarder les influences linguistiques, de culture, et aussi les discriminations de genre, et tout un tas de, d'informations qu'on ne voit pas si on n'est pas capable d'accéder à la machine et comment elle a été entraînée.
Et alors, pour soigner l'IA anxiété, si certains en souffrent encore en nous écoutant, il y a l'éducation. Il faut clairement, pour ne pas avoir peur de, des progrès de l'IA, il faut enseigner l'usage de l'IA à l'école, ce qui, pour l'instant, c'est en friche, hein, on n'y est pas encore.
Alors en fait, il y a plein de niveaux différents. On a décidé quand même d'avoir une action pour que les enfants puissent coder assez jeunes, ou qu'au moins il y ait ces activités au niveau du collège, au niveau du lycée. Et moi je dis, c'est trop tard, c'est pas suffisant. Il faut aller avant. Donc moi je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, de médiation culturelle en maths et en info, et on essaie de monter des capsules IA éthiques sur l'usage. Vos enfants, ils ont déjà un téléphone à 8-9 ans. Ils ont déjà accès aux réseaux sociaux très jeunes. Et donc, c'est là qu'il faut aller dire, voilà l'usage. La première capsule qu'on a montrée à des enfants grâce à Édouard Philippe au Havre, dans deux classes, CM1, CM2, c'était « J'ai tout perdu, mon temps et mon argent ». Et ça parlait de quoi ? Ça parlait aux enfants de dopamine, à travers un petit dessin animé, et leur faire comprendre qu'en fait, qu'on capture leur attention par des stratagèmes. Quand on a demandé ensuite aux enfants, voire on leur fait dépenser de l'argent avec des jeux qui sont gratuits pour jouer, mais qui sont payants pour gagner.
Oui, c'est ça. Oui, il faut racheter des choses ensuite.
D'accord. Est-ce qu'on va pas créer une disparité
On démontrait... Avec ça Pardon
Est-ce qu'on va pas créer une disparité dans le
Quelle
système éducatif
Mais si on l'enseigne à l'école, justement, on voit bien qu'il y a
par exemple pas des écoles qui ont les mêmes moyens pour avoir les mêmes outils.
Et ces outils-là, on les crée gratuitement.
Ah oui.
D'accord. Okay. Et on peut les donner en massifiant leurs usages. C'est ça l'intérêt du numérique. Hein. Si je mets des outils comme cela, qui sont des petites vidéos, et que je dis, il faut discuter avec les enfants, je fais monter en capacité les professeurs des collèges à comprendre, les parents à comprendre aussi, parce qu'ils pourront avoir accès aussi à cela, et les enfants, ils auront à élaborer une discussion, à être critiques, à comprendre pourquoi, est-ce que c'est souhaitable ou pas. On l'a fait dans des classes, ça marche très bien. Et on en a d'autres sur « ChatGPT fait mes devoirs », l'écologie, qu'est-ce qu'un garçon ou une fille sur Internet ?
Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les robots émotionnels », que je cite aux éditions de l'Observatoire. Les robots émotionnels, moi, ça me fait penser au film avec Joaquin Phoenix, « Her ».
Tout à fait.
Est-ce que ça, c'est de la science-fiction ou ça, on va y arriver ?
Ça, on y arrive déjà. Oui. En fait, vous avez l'air de dire que l'IA n'est pas là, mais elle est déjà omniprésente dans nos téléphones, un peu partout. Donc, on va avoir des objets comme cela qui manipulent nos émotions. C'est mon sujet de recherche dans une chaire au CNRS. C'est de travailler sur la façon dont on peut être manipulé par du nudge digital affectif. Le nudge étant une incitation à faire. Dès lors que je sais profiler votre comportement, c'est-à-dire je sais que vous êtes heureux, pas heureux devant certaines situations, je peux vous emmener dans différents sujets. Alors c'est très utile pour aller encore dans la santé, travailler sur des pathologies et avec évidemment une vérification de ce qui se passe. Maintenant, si c'est un outil marketing demain, c'est tout à fait délétère. La loi pour l'IA le dénonce. Ça serait important qu'on ait cette loi qui arrive.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Dans quelques instants, c'est Tania Dutel qui nous rejoindra. Mais d'abord, je me tourne vers celle qui, dans cette équipe, est en première ligne face aux avancées de l'IA, puisqu'elle est notre experte réseaux sociaux. Manon, aujourd'hui, une chronique 100% fun, 100% feel good ou pas ?
Comme vous dites, aujourd'hui, je vous propose une virée dans le monde de l'intelligence artificielle, comme cette émission. Un monde dont on ne maîtrise pas encore les codes et qui est pourtant en train d'émerger devant nos yeux, ébahis et effrayés. Car au-delà de ChatGPT, qui peut écrire un texte sur demande, ou de Midjourney, qui génère de fausses images du pape, l'intelligence artificielle est en train de devenir un vrai danger pour les mineurs et en particulier les jeunes femmes. Je m'explique. Je vous ai déjà parlé des deepfakes à plusieurs reprises, cette technologie qui permet de générer des fausses images en remplaçant le visage de quelqu'un sur un corps qui n'est pas le sien. On les appelle aussi les hyper-trucages. Eh bien, l'une des choses pour laquelle on les utilise le plus, c'est pour créer des deep nudes, autrement dit des images pornographiques générées avec le visage d'une personne existante mais sur un corps qui ne lui appartient pas. Plusieurs stars en ont été victimes, Jennifer Lawrence, Taylor Swift ou encore Emma Watson, mais aussi des influenceuses comme Lena Situation au Juju Fit Cats. C'est un phénomène très malsain qui, malheureusement, continue à faire son bonhomme de chemin sur les réseaux puisqu'aujourd'hui, des milliers de mineurs sont devenus la cible de ces deep nudes.
Mais qu'est-ce qui s'est passé, Manon ?
Plusieurs histoires. En septembre, par exemple, 20 adolescentes espagnoles ont reçu des deep nudes d'elles partagées aussi dans des groupes WhatsApp. Ceux qui en sont à l'origine ont repris des photos d'elles qui étaient initialement sur leur compte Instagram. Des photos d'elles habillées, mais grâce à la magie du numérique, leurs habits ont disparu et leurs corps se sont retrouvés sur ceux d'actrices porno. Même Même chose dans un collège de Dallas. Des jeunes filles ont aussi été victimes de deepfakes à caractère sexuel qui ont été partagées sur Snapchat à des centaines d'autres élèves. Pareil dans un lycée du New Jersey il y a un mois. Vous l'avez compris, il y a donc de plus en plus de mineurs victimes de ce phénomène très très glauque. Imaginez que vous ayez 14 ans, que vous voyez passer une photo de vous truquée, totalement nue et hyper sexualisée. Une photo partagée à tout votre entourage par la suite. Le traumatisme que ça représente. Et alors le vrai problème est que créer un deepfake aujourd'hui, on l'a dit, est à la portée de n'importe qui. Sur internet, il y a des sites où l'on peut en faire gratuitement. Sur son smartphone, il y a des applications qui nous permettent d'en générer. Il n'y a pas besoin d'être un petit génie de l'informatique, même un gamin peut le faire. D'autant plus que, comme je vous le disais, les photos utilisées sans consentement et à l'origine de ces deepfakes sont souvent des photos que les jeunes filles postent elles-mêmes sur leurs réseaux sociaux. C'est donc très facile d'accès. Et puis, il suffit d'une seule photo. Pas besoin d'avoir forcément accès à tout le compte Instagram de quelqu'un. Même un simple portrait posté sur LinkedIn peut être suffisant.
Encore un phénomène très inquiétant.
Oui, c'est ce que montre aussi un rapport de l'Internet Watch Foundation publié en octobre. Il dit qu'effectivement, l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour créer des deepfakes à caractère pédopornographique et qu'ils font fureur sur le dark web. Des gens s'en échangent par milliers, certains en font même un business et les font payer. Je rappelle qu'en France, la loi punit de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la consultation d'images pédopornographiques. Mais cette prolifération de deep nude de mineurs montre aussi qu'il faut s'attaquer à la source et donc aux logiciels d'intelligence artificielle qui ne sont pas encore encadrés par des lois très claires. Selon un article de BFM sur le sujet, ces plateformes sont tout de même déjà soumises à la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elles doivent donc, je cite, mettre en place un système de signalement de ces contenus par les utilisateurs, informer les autorités de ces signalements, rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites et conserver les données permettant d'identifier les responsables. Sauf que la plupart de ces logiciels d'IA ne sont pas français, donc pas soumis aux mêmes réglementations. Et puis quand il y en a un qui disparaît, un autre apparaît, c'est un cercle sans fin. Pour beaucoup de spécialistes, donc, il faudrait carrément qu'il y ait des accords internationaux qui soient votés, car sinon, on ne va pas s'en sortir, et on ne peut qu'être d'accord avec eux.
Merci beaucoup Manon, une veille sanitaire importante aujourd'hui, ce qui ne signifie pas que votre chronique de lundi en forme de Cluedo guatémaltèque ne l'était pas, mais disons que celle-ci l'est encore plus. Sauf qu'attention, si l'IA peut déboucher sur le pire, elle peut également nous offrir le meilleur. Est-ce que vous avez entendu le premier single d'Anna Indiana ?
Non.
Ah, c'est une artiste 100% générée par IA qui vient de passer le cap des 21 millions de vues sur Twitter. Un bijou qui a tout de suite tapé dans l'œil de Jube, le programmateur musical de Zoom Zoom Zen, qui l'a immédiatement fait entrer en playlist inter. Non, je déconne, voici Gossip, Crazy Again.
Crazy.
Zen sur France Inter.
Comment renouer avec la légèreté et la bonne humeur après une chronique sur la pédocriminalité en ligne ? Personnellement, je ne sais pas. C'est pourquoi je préfère sous-traiter l'humour de cette fin d'émission à Tania Dutel. Bonjour Tania.
Bonjour, ce lancement me prend court. Comment allez-vous ?
Génial.
Super. C'est la meilleure nouvelle de la semaine. Lié à anxiété, déjà, le sujet m'a rendue anxieuse. Bon, Mathieu, on va pas se mentir, j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais d'accord, comme on n'a jamais le temps de parler, est-ce que je peux raconter mon mercredi soir dernier avec Manon et Quentin ? Oui. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il faut que ça sorte.
Oui. On en a entendu parler, on aimerait avoir votre version, Tania. Ah,
merci, maître. Donc, nous allons prendre un verre avec Quentin et Manon, mercredi. Deux hommes bourrés sont à côté de nous, Quentin part. Il est déjà plus dans l'histoire, Quentin, c'est le gars qui meurt au début du film. Un des gars part aux toilettes, l'autre vient s'asseoir à notre table. Logique, il tend un billet de 50 euros à Manon en disant « Regarde, Manon, très calme. » Oui, et lui, bourré. Bah, c'est info, je l'ai eu sur le dernier film de Zoé Marshall. Donc, moi, je savais pas que c'était une soirée name-dropping. Tu veux voir mon selfie avec Alain Chabat ? Je l'ai dit dans ma tête, hein. La venue de nulle part, lui bourré. Tu t'appelles Ludivine ou Joséphine ? Manon, toujours calme. Alors non, et ça veut dire quoi ? Il y a un truc particulier avec ses prénoms ? Le serveur arrive, il le dégage. Il est revenu. Combien, Manon ? 50 fois à peu près.
Ouais, à ce point, ouais.
Le serveur nous change de place, le gars revient, son pote lui dit de nous laisser, lui bourré. Non mais je les laisse, c'est bon, elles parlent de leurs problèmes. Manon, toujours très calme. Quel problème ? Juste, on parle en fait. Moi, je disais rien, j'étais trop occupée à prendre des notes. Après 1000 allers-retours, et plus personne qui pouvait le saquer, même pas son pote. On était à deux doigts des affiches Wanted dans tout Paris.
Vraiment.
Il est revenu et là, merci, vous m'avez bien fait passer pour un con. Vous m'avez bien fait passer pour un con, mais dis donc, tu le fais très bien tout seul. La soirée de l'anxiété. Et vous savez, je reviens sur le sujet, quand on utilise ChatGPT, on le nourrit et il devient plus performant. J'espère que ce gars ne l'utilise pas, parce que merci bien la version 10.0 dans laquelle tu lui demandes, je sais pas, tu lui poses une question et que le robot te répond « Merci, vous me faites passer pour un con ». Je préférais, moi, l'ancien ChatGPT Akinator, vous vous rappelez ?
Ah oui !
Le génie qui devine à qui tu penses, la folie, trouver Britney Spears en quatre questions. Incroyable. Je l'ai fait pour vous, Mathieu.
Ah, oui.
J'ai répondu non à si vous aviez moins de 45 ans et à moins de 60 ans. Je pense que le développeur n'a jamais rebossé dessus. Parce que, logiquement, si vous avez moins de 45 ans, il est peu probable que vous ayez plus de 60 ans. Avant de tomber sur vous, il m'a proposé Gilles Verdez. Donc, visiblement, vous avez même pas trop. Et vraiment.
Hein. Je quitte ce studio. C'est la fin de ma carrière.
On a beaucoup de sujets sur l'IA. Ça me permet d'en savoir un peu plus parce que j'avoue, je m'y intéresse pas tellement parce que ça me fait peur. J'ai cru toute mon enfance que les singes allaient prendre le pouvoir à cause du film La planète des singes. Mon futur, je le voyais pas ailleurs qu'en labo, non pas en chimiste, mais dans une cage comme testeuse de maquillage et médicaments. Et depuis 10 ans, j'ai peur des robots. Ma plus grosse technologie chez moi, c'est une ampoule connectée parce qu'il n'y a pas de lumière au plafond. Et j'en ai eu marre de devoir rentrer chez moi le soir avec la lampe torche de mon téléphone pour trouver l'interrupteur. Ah, j'ai aussi une enceinte Bluetooth en vrai. Waouh. Mais j'étais chez une amie dimanche, elle met de la musique et je l'entends moins fort Alexa. Ah non, faut dire Alexa d'abord. Alexa moins fort. Alexa baisse la musique. Et elle se lève pas. On est chez les fous. Donc je l'ai fait puisque visiblement Alexa était en pause café. J'ai lu aussi chirurgien assisté par des robots. Ça m'a foutu une angoisse. Moi, je veux pas. Vous avez déjà vu des machines à laver qui pètent les plombs ? Parce que, pardon, mais si je dois repasser sur le billard, je sais que je vais me dire avant soit tout à l'heure, soit potentiellement je me réveille jamais parce que le robot aura fait de la soupe avec mes organes. J'ai pu lire que 3 travailleurs sur 5 s'inquiètent de perdre leur emploi du fait de l'IA au cours des 10 prochaines années. Et nous, je crois que c'est pas encore le cas, mais Mathieu, rassurez-vous, je pense que Ghislain, le Réal, sautera avant vous.
C'est probable, oui. Merci beaucoup, Tania Dutel. Je pense que Quentin a quitté trop tôt la soirée. Il aurait pété la gueule du
titre.
Bien sûr. Ça aurait
bien
été très rapide, évidemment.
On a tellement peu de temps d'homme,
en plus. Bien sûr. Merci beaucoup, Tania. Merci, Laurence de Villers, de nous avoir permis de mieux comprendre les ressorts de l'IA anxiété et de les démonter. On peut le dire aujourd'hui, plus personne n'a peur. Merci à tous. Manon Mariani, pour ce feu d'artifice zygomatique que fut votre veille sanitaire. Quentin, lui, Cyril Lacarrière, dont nous évoquerons demain l'amitié toute fraîche qu'il vient de nouer avec Pascal Obispo, sujet très intéressant. Merci aussi à Amel Caldi, Fanny Léonore Crouzet et Cléo Grisper, à Baptiste Collion qui était à la technique et Ghislain Fontana qui était à la réalisation et qui va être maintenant au parloir puisqu'il semblerait que son papa, ou en tout cas ce qui ressemble à son père, un gourou du yoga tantrique d'Ivry-sur-Seine, vienne de se faire coffrer. On reviendra dessus demain en long et en large. Zoom Zoom Zen revient demain 16h, on zoomera sur une nouvelle mode, la mode non genrée.